fiebre hay.
Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 269, émission musicale, la géométrie variable sur la musique et ses histoires, diffusion radiophonique sur RDWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence et sur la web Radio Trafic de Rock, les podcasts disponibles comme d'hab sur le site internet de RDWA. Aujourd'hui, on démarre un cycle de deux émissions. On va s'intéresser à des révoltes d'esclaves et d'anciens esclaves dans les Caraïbes à travers différentes histoires ayant eu lieu en Guadeloupe, en Haïti ou à la Jamaïque. Il sera question durant ces deux émissions de personnages devenus de véritables héros dans leur île respective en mourant au combat ou en exil contre les puissances coloniales. Ces hommes et ces femmes se nomment Louis Delgrès, Paul Bogle, Nanny Maroon, Sam Sharp, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, des histoires souvent peu connues, mises en musique à travers un répertoire éclectique comme d'hab de musique jamaïcaine, de reggae anglais, de blues, de musique haïtienne, de latin rock, de dub. Pour ce qui est de la première émission, on va s'intéresser à la révolution haïtienne et ses grandes figures. On va causer également de la révolte des Guadeloupéens de 1802 face à la volonté de l'État français de rétablir l'esclavage. Le tout agrémenté de quelques extraits d'émissions télé et radio comme 2000 ans d'histoire qui abordaient ces sujets durant quelques émissions. Le début de notre histoire du jour commence à la Révolution française. Le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les députés, inspirés par les grands philosophes français et anglais des siècles précédents, votent dans l'enthousiasme cette déclaration de 17 articles commençant par cette phrase mémorable et impensable sous l'Ancien Régime. « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les colons blancs de l'île de Saint-Domingue, c'est-à-dire cette vaste île qui abrite aujourd'hui Haïti et la République Dominicaine, y voient l'occasion de s'émanciper de la tutelle de la France. Eux ne veulent pas en finir avec l'esclavage et souhaitent pouvoir toujours asseoir leur business sur une main-d'œuvre docile et bon marché. » Les libres de couleur et les esclaves, eux, voient leur espoir d'émancipation s'envoler, mais décident de ne pas se laisser faire par les quelques 30 000 colons sur place. Les esclaves sont quant à eux près de 500 000. Ils ont pour eux le nombre et le vaudou qui a perduré dans les lieux de marronnage et qui a permis de rassembler, de fédérer des hommes ne venant pas forcément des mêmes régions d'Afrique. Le 14 août 1791, à Bois-Caïman, dans la plaine du Nord, de nombreux esclaves décident la révolte sous l'autorité de Bookman Duty, un esclave venant de la Jamaïque. Ce premier acte de la révolution des esclaves en Haïti aura pris la forme d'une cérémonie vaudou. En quelques jours, toutes les plantations du Nord sont en flammes et un millier de blancs massacrés. Malgré la répression où Bookman est tué, des bandes d'esclaves armés persistent dans les campagnes et les montagnes. D'autres parties du pays, des révoltes spontanées s'en suivent. C'est le début de la révolution haïtienne.
Tout le monde capitaine Kanga à pied, n'a atterri n'a qu'à.
Ensemble,
yo saisi.
Ensemble, on a privé.
Paysan,
yo, paysan, 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 pa
pas qu'à diviser.
Pas nous marcher.
Mais ici tout, nous pas qu'à diviser.
Pas nous marcher.
En nous marcher, messieurs, en nous marcher.
Nous
marcher, mesdames, en nous marcher. Mes pays blancs, ça va trop sauver.
King Kessy, morceau Bois Caïman. On va parler maintenant d'un des personnages centraux de cette révolution haïtienne de la fin du XVIIIe siècle, Toussaint Louverture, dont il est question dans l'extrait de l'émission 2000 ans d'histoire, centré sur l'histoire d'Haïti.
Venu d'Afrique pour 30 000 colons à peine. 550 000 esclaves qui se révoltent en 1791, poussant la Révolution française à abolir l'esclavage. Et là, c'est l'émergence d'une nouvelle élite à la tête de laquelle on va trouver l'homme qui est le plus connu, le plus célèbre de l'histoire de Haïti, c'est Toussaint Louverture, Jean-Marie Théodate.
Tout à fait. C'est-à-dire que les Français modernisent en quelque sorte les techniques agricoles même pas inventé par les Espagnols, parce que les Espagnols sont eux-mêmes, on va dire, les continuateurs de la science agricole instituée par les Arabes dans les îles, justement, de l'Atlantique, les Açores, Madère et les Canaries. Les Français systématisent cette agriculture coloniale de plantation et d'exportation fondée sur la servitude, l'utilisation donc d'une main-d'œuvre noire servile. Mais pendant toute la durée du système de plantation, il y a eu de nombreux soulèvements. Il y a eu surtout le marronnage permanent, c'est-à-dire l'exode des esclaves vers les régions les plus inaccessibles pour pouvoir mener une vie dans toute liberté. Et au lendemain du soulèvement de 1791, nous voyons précisément émerger dans l'armée coloniale française une élite d'officiers noirs, parmi lesquels Toussaint Louverture va jouer un rôle déterminant.
Alors, général même, et puis se proclamant gouverneur des Antilles, enfin de Saint-Domingue, lorsque Napoléon, en 1802, rétablit l'esclavage, eh bien, nouvelle révolte, et l'envoie par Napoléon, donc, d'une armée, à la tête de laquelle il place son beau-frère, le général Leclerc.
Le 3 juillet 1801, Toussaint Louverture promulgue une constitution autonomiste qui lui donne les pleins pouvoirs à vie en représailles. Il en est question à la fin de cet extrait radiophonique. Napoléon Bonaparte, premier du nom, charge donc une expédition militaire de reprendre le contrôle de l'île, composée de plusieurs escadres réunissant en total 31 000 hommes à bord de 86 vaisseaux. Elle est menée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon. Après 3 semaines de combats inégales et sanglants, en mars 1802, les généraux de Toussaint Louverture se rendent aux Français. Il est autorisé à se retirer sur l'une de ses plantations à proximité du bourg d'Henry, dans l'ouest de l'île, non loin de la côte. Le 7 juin 1802, Toussaint Louverture est arrêté malgré sa reddition et il est déporté en France, où il est interné au fort de Joux dans le Jura. Il y mourra des rigueurs du climat et de la malnutrition le 7 avril 1803. Il est devenu depuis le symbole de l'indépendance d'Haïti et au-delà, le symbole de la résistance des peuples indigènes face aux colons. On écoute un autre extrait télé, celui-là, où il est question de l'héritage de Toussaint Louverture.
Toussaint Louverture, personnage historique auquel vous êtes allé rendre hommage au fort de Joux dans le Jura, où il était emprisonné par la France et où il est mort. On voit ici les promesses de Toussaint Louverture qui a affranchi de l'esclavage, la première puissance affranchie de l'esclavage, les promesses 210 ans après, c'est assez terrible. Quand on voit Saint-Domingue à côté qui est plutôt florissante, qu'est-ce qui s'est passé en 210 ans pour que les promesses de Toussaint Louverture soient à ce point dévoyées ?
Bon, justement, c'est une question importante et c'est pour ça que je suis venu. C'est ça. Parce que, imaginez-vous, qu'en Haïti ou à travers le monde, donc on parlera beaucoup plus de Malcolm X, on parlera beaucoup plus de Martin Luther King, du grand Nelson Mandela. Mais les initiateurs de ce mouvement remontent justement aux années 1791, 1804, les Dessalines, les Toussaint Louverture. Parce que la révolution haïtienne, qu'on connaît très peu, qui nous a amené à l'indépendance, et c'est elle qui a redéfini le mot liberté. Parce que c'était justement ça, sortir de ces chaînes de l'esclavage. Et pourtant, on ne parle pas de Toussaint. Pourtant, aucun président haïtien n'est allé sur le site.
Et vous avez choisi d'aller lui rendre hommage dans ce fort où il a été emprisonné et où il est mort.
C'était important. Il faut qu'on puisse s'inspirer de l'idéal de nos ancêtres qui ont mené une bataille qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas mener. Aujourd'hui, nous ne serions pas à même de nous battre contre une petite police, voire une armée. Heureusement, nos pères l'ont fait pour nous.
Il a battu Napoléon.
C'est dur de l'admettre, mais c'est une réalité. On est devenu indépendant.
Le monde de la musique a bien entendu rendu hommage à Toussaint Louverture et pas que les artistes haïtiens. La preuve avec les deux prochains morceaux, celui de Santana, un live datant de 1978, et celui des Overnight Players dans un tout autre genre, Santana et le morceau Toussaint Louverture. We'll be right back. The Overnight Players, Toussaint l'ouverture, à la recherche du groupe perdu, session 269. On continue notre histoire du jour par celle de Louis Delgrès, un des autres symboles caribéens de la résistance au rétablissement de l'esclavage par Napoléon au début du 19e siècle. L'homme n'est pas très connu en métropole, mais de nombreux monuments lui sont dédiés dans les Antilles françaises. Né à Saint-Pierre de la Martinique le 2 avril 1766, il était métis de son état, ou plutôt mulâtre comme on disait à l'époque. Militaire de carrière, maintes fois remarqué par ses faits de guerre sur le champ de bataille durant les combats opposant Français républicains et Anglais royalistes dans la Caraïbe, Delgrès va lutter pour l'idéal égalitaire de la République. En 1802, il est nommé colonel de l'armée française, affecté à la protection de la Guadeloupe. Et il est chargé de la défendre des appétits des grandes puissances occidentales ennemies. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les temps changent. La République a cédé la place à Bonaparte, qui s'est fait proclamer consul à vie après un coup d'État. Et le premier consul décide de rétablir l'esclavage aboli depuis 1794 dans les colonies françaises. C'est le décret du 20 mai 1802.
It is the deeds of great Napoleon I'm going to relate. He was a gallant Corsican as ever stood on Europe's land. I'm inclined to sing his praises, so noble though his heart. For didn't every battlement fought, he strode again that victory. And to the world a terror was Napoleon Bonaparte. Ah, that fatal June at Waterloo, it caused a Napoleon for sure.
Le général Richepanse, bras armé de Bonaparte, est envoyé en Guadeloupe pour faire appliquer sa décision de rétablir l'esclavage. Le colonel Delgrès, commandant à la basse terre, convaincu du fait qu'il vient pour y rétablir l'esclavage, va déserter l'armée française et organiser la résistance. Il a définitivement perdu toute confiance dans cette France qu'il avait jusque-là servie avec dévouement et qui exige maintenant de ses militaires noirs et mulâtres qu'ils remettent leurs armes aux autorités militaires françaises dès leur arrivée. Il va devenir rebelle et prendre la tête d'un groupe d'hommes armés bien décidés à lutter pour conserver cette liberté. Le matin du 6 mai 1802, les Guadeloupéens aperçoivent au large des côtes une flotte armée de 14 navires qui se dirige vers eux. Nouvel extrait de 2000 ans d'histoire sur cet homme, Louis Delgrès.
Insurrection de Louis Delgrès contre laquelle Napoléon va envoyer en 1802 une autre expédition militaire commandée par le général de division Richepanse, chargé de mater la révolte du colonel Delgrès.
Colonel, regardez.
Des insensés qui, comme par le passé, méconnaîtraient le pouvoir légitime. Il n'y a pas de doute. Il s'agit de nous. Et il promet que sur nos têtes éclaterait la vengeance nationale. Et Richepanse, le gros de son armée a débarqué hier. Il est là pour préparer notre retour à l'esclavage.
Enfin, Louis, pour quelle raison?
À cause de cette foutue canne à sucre. Mes amis, citoyens de la Guadeloupe, on en veut à notre liberté. Sachons la défendre en gens de cœur.
Vive la liberté! Vive la liberté! Alors ce n'est pas la liberté que va apporter le général Richepanse et ses troupes qui vont écraser le soulèvement des Guadeloupéens. Delgrès est tué, 3000 Guadeloupéens sont déportés en France. C'était terrible aussi cette répression en Guadeloupe. C'était la Guadeloupe et Saint-Domingue, c'était vraiment là où s'est passé le plus de choses à cette époque.
Voilà, alors la différence entre Guadeloupe et Saint-Domingue, c'est qu'en Guadeloupe, le corps expéditionnaire de Richepanse a gagné. Il a réussi l'opération, il a réussi la reconquête, il a réussi, il faut bien le dire, l'extermination des derniers défenseurs. Les 300 environ soldats qui s'étaient repliés dans la forteresse de la Matouba avec Delgrès se sont suicidés collectivement. On fait sauter la forteresse, on fait sauter les tonneaux de poudre à canon qu'ils avaient disposés. Et ça a été la capitulation des survivants. Donc réussite pleine et entière de l'expédition Richepanse qui rétablit l'esclavage.
Voilà l'histoire de Louis Delgrès qui a donné naissance à un mythe, une légende et qui est à l'origine du nom de ce groupe de blues français qui a sorti récemment un album qui mêle blues, chant créole et rock. L'album est encensé partout, c'est la révolution d'après de nombreux spécialistes, après une écoute attentive. Je dirais que c'est pas mal. Sans plus, seul le morceau titre de l'album, Mot Jody, qui évoque l'histoire de Louis Delgrès, vaut vraiment le détour. Le reste ressemble globalement à ça, en moins bien. Delgrès, Mot Jody. Delgrès, Mot Jody, comme il en est question dans le dernier extrait radiophonique. Napoléon, à travers ses généraux sur place, mate la rébellion en Guadeloupe en mai 1802 et tue les partisans de Louis Delgrès, mais pas en Haïti où les choses se corsent grâce à une opposition farouche sur place, organisée entre autres par une autre figure majeure de la révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Il réussit le 18 novembre 1803 à vaincre les Français à la bataille de Vertières, une date oubliée de l'histoire de France comme tant d'autres, une date maudite où la plus grande armée du moment capitule face à une armée indigène composée en grande partie d'anciens esclaves. Explication texte par cet historien québécois qui nous raconte les détails de cette date qui marque la fin de la présence française en Haïti.
Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo. Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada, vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Luxe. Alors, vous vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières.
La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du 19e siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines, et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée. Le soir, il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu. Mais ce qui est certain, c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau, et c'est la fin. La fin d'un rêve de résurgence, finalement, d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803.
En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays ?
C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne. Puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté.
Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française.
Alors qui s'inspire de qui ? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes à Saint-Domingue sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque.
Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire ? Quelles sont les conséquences concrètement ?
Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement, la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment, est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens, selon les généraux français, selon Napoléon.
Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous.
Alors, c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires, comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance, si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnue comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser. Mais Vertières est un symbole de résistance populaire encore aujourd'hui en Haïti.
Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire ?
Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable ? C'est le renversement de la relation esclavagiste.
Première République noire ?
Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée.
Jean-Pierre Le Glonec, l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, à lire absolument si vous êtes passionné d'histoire et si vous voulez connaître une partie de l'histoire de France et d'Haïti. Merci à vous d'avoir témoigné. Merci dans 64 minutes.
Sak te pase Le de saline ta koume Ou petet mou letay Ou te banou Indépendans nou Premier neg indépendant Premier neg ki gen drapo Pag en fè Intéressant On ki ou fè Yo référence A ou nom d'importance Pou mi merci Jean-Jacques de saline Qui gagne de la peau, pas gagne fait intéressant. On peut faire une référence à un homme d'importance pour dire merci, Jean-Jacques Dessalines.
Les salines campées, tout le monde soupire. Pour nous jodia, pour nous jodia.
Merci Dessalines. Quelques mois après la bataille de Vertières, le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Il se fait d'abord nommer gouverneur général à vie, puis empereur. Devenu empereur, Dessalines organise la répression des derniers Français sur place. Ceux-là même qui espéraient le retour de l'ordre ancien en Haïti n'en furent rien et ils furent contraints à l'exil. Beaucoup de ces colons iront en Louisiane poursuivre leur business. Le nouveau gouvernement en place ayant décidé d'entreprendre une réforme agraire au profit des anciens esclaves sans terre, Dessalines est assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince, par ses collaborateurs. Décidément, le mot « ami » n'existe pas dans les sphères politiques et après l'assassinat de Dessalines, ses ministres tentent de faire reconnaître son fils comme empereur légitime, en vain, puisque l'Empire est immédiatement aboli par ses assassins. Malgré cette fin sordide et ce règne de quelques années seulement, Dessalines restera, comme Toussaint Louverture, le symbole de l'émancipation et de l'indépendance d'Haïti. L'hymne national d'Haïti porte d'ailleurs son nom, la Dessalienne. Dernier chapitre haïtien du jour, dernier chapitre tout court avant de passer à l'histoire du marronnage en Jamaïque la semaine prochaine, celui de la dette haïtienne réclamée par la France comme dédommagement suite au retrait des colons et de l'État français sur l'île, une somme astronomique qui va être en très grande partie responsable des difficultés économiques du pays au 19e siècle, le point de départ d'une paupérisation du peuple haïtien. Comme l'indique cet historien dans un autre extrait radiophonique.
Ce sera tellement dur que l'armée française y sera écrasée par les Noirs en 1804, qui proclament donc l'indépendance de leur pays, qui, auquel ils donnent le nom, justement, qu'avaient donné les Indiens, le nom de Haïti. C'est donc le deuxième pays d'Amérique, la deuxième colonie d'Amérique à proclamer son indépendance. Pardon, après les États-Unis, mais en fait, cette indépendance n'est pas reconnue par les grandes puissances qui sont furieux de voir s'établir un État noir, un État d'esclaves dans la région, jusqu'à ce que Charles X, en 1825, finisse par accepter de reconnaître Haïti, moyennant le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or. Autrement dit, on demandait aux Haïtiens de racheter leur liberté, en quelque sorte. Jean-Marie Théodate.
C'est une liberté deux fois acquise, d'abord sur le champ de bataille et un quart de siècle plus tard par le rachat, donc par le versement à la France, c'est-à-dire très exactement le versement aux descendants des colons français qui avaient été chassés de Saint-Domingue, donc de Haïti, pour à titre de dédommagement, à titre de réparation. Cette indemnité va peser sur la jeune République haïtienne, vraiment comme le rocher sur les épaules de Sisyphe. Il va falloir porter cela pendant pratiquement trois quarts de siècle, et beaucoup considèrent que c'est le point de départ de l'involution économique connue par Haïti, c'est-à-dire cette paupérisation sur la longue durée qui a rendu le pays exsangue.
Voilà l'histoire qui explique en grande partie l'état actuel d'Haïti. Si on ajoute à ça les problèmes d'ordre climatique, vous avez donc les explications dans les très grandes lignes. Prochain morceau, celui qui déboule derrière, l'orchestre Tropicana avec le morceau Perle des Antilles. On se retrouve dans quelques minutes. À tout.
septième merveille du monde.
Cette émission, la 269e. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On quitte Haïti, on quitte la Guadeloupe pour la Jamaïque avec une histoire du marronnage. Ces esclaves échappés des plantations et qui ont mené une vie en dehors de tout courant dominant de la vie jamaïcaine dans les montagnes. À la semaine prochaine donc pour cette histoire. Et je vous laisse avec le groupe Massacre et le morceau Dessalines Square. C'était à la recherche du groupe perdu. À la semaine prochaine. Ciao.
Et puis tout le monde a baissé, c'est comme si.
Vous connaissez
ça. Il y a un point du vin, il y a un point.